Comment on dit j'ai mal en amharique? Alors, l'amharique, c'est une langue sémitique comme l'hébreu, comme l'arabe. C'est une des 80 langues parlées en Éthiopie. Alors, cette langue est essentiellement pratiquée par la population chrétienne orthodoxe éthiopienne. Alors, cette question, je la pose. Comment dire j'ai mal en amharique, tout simplement pour susciter la réflexion. Exprimer sa douleur nécessite d'utiliser des mots, de pouvoir entrer en contact avec l'autre. Et doit-on écrire sa douleur? Doit-on la synthétiser sur une échelle visuelle? Doit-on la deviner à travers une échelle d'auto-évaluation ou d'hétéro-évaluation, le simple regard du clinicien, de l'aide-soignante, de l'infirmière, de tous ceux qui sont en contact avec le patient. Donc, ces simples contacts peuvent-ils décrire une douleur? Aujourd'hui, les indicateurs qualité se limitent à des smileys. Mais derrière les smileys, quelle est la réelle implication des soignants dans la prise en charge de la douleur? Nous allons tenter d'aborder ce sujet très vaste en une page. Le but premier est de susciter la curiosité, toujours dans l'intérêt des patients. Alors, pour faire face à une douleur, il faut être méticuleux, savoir observer, enquêter et toujours garder en arrière-plan des histoires de chasse, des anecdotes, des cas cliniques. Je vais parler de ce diabétique âgé de 55 ans, bon vivant, qui un jour de week-end, un dimanche, après avoir bien mangé, le ventre bien tendu, commence par ressentir une petite lourdeur, une dyspepsie, un peu de nausée, une petite gêne épigastrique. Et il se sent pas très bien. Il attribue cet état, cette sensation au fait d'avoir mangé quelque chose de pas trop frais. Il va se coucher. Faut dire qu'il avait quand même bien bu. Dans la nuit, donc il se réveille parce que très angoissé et sa douleur dure, il ne se sent pas très bien. Alors s'il a la chance, il peut aller aux urgences en espérant qu'il soit bien accueilli, que les urgences soient ouvertes. Et s'il n'a pas de chance, peut-être qu'il va se rassurer en prenant ici des comprimés effervescents, là un doliprane ou peut-être même de l'aspirine. Toujours est-il que il faut savoir qu'une douleur thoracique atypique chez un bon vivant peut être un infarctus du myocarde basal jusqu'à preuve du contraire. C'est une urgence cardiovasculaire à retenir. Autre cas, c'est l'histoire de ce fumeur qui a une mauvaise hygiène bucco-dentaire et qui a des abcès. Et là, comme d'habitude, mais il a très mal, sauf que ça dure, et il prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il en consomme plus que de raison et en fait la douleur ne passe pas. L'inflammation est de plus en plus importante. On voit apparaître quasiment un œdème de la face jusqu'à ce que l'œil commence par se fermer. Les bactéries qui auraient pu être gérées par le processus inflammatoire normal et les antibiotiques et le soin de la dent, En fait, ces bactéries se sont multipliées. Elles ont créé un flegmon de la face. Le patient avait un peu mal. Il se retrouve en réanimation avec une chirurgie au niveau de la face. Obligé plus tard de passer entre les mains d'un chirurgien esthétique pour une reconstruction de la face, une gueule cassée en quelque sorte. C'est l'histoire d'une jeune de 18 ans qui a déjà eu deux, trois petits copains. Elle a un cycle plutôt irrégulier. Elle est un peu en retard, comme d'habitude. Elle a un peu mal, une petite douleur au départ, et après une sensation de coup de poignard dans le bas-ventre, au niveau du pelvis. Elle va se coucher dans sa chambre, s'enferme. Il faut dire que l'ambiance n'est pas très bonne à la maison, qu'elle s'entend mal avec sa maman, et que, en fait, elle n'a pas signalé qu'elle était amoureuse de un tel. Finalement, elle prend du Spasfon, elle prend un paracétamol, elle s'installe dans son lit, elle a un peu mal et finalement elle se retrouve en pleine hypovolémie, ceci étant dû à une hémorragie interne par rupture de grossesse extra-utérine. Il fallait pas que ça sache qu'elle avait des rapports sexuels non protégés. Elle est enceinte, elle se retrouve avec un ventre chirurgical et une hémorragie interne cataclysmique. On passe sur l'exploitation commerciale des opioïdes aux États-Unis en vente libre, hein, et je ne raconte pas l'histoire de ce chanteur très connu, Prince, qui est mort dans son ascenseur pour avoir consommé des opioïdes libres de vente. C'est l'histoire d'un homme de 45 ans qui, depuis un certain temps, a des difficultés pour uriner, une dysurie. Et il faut dire que s'y associe depuis peu une espèce de béance anale, une anesthésie en selle. Il s'inquiète, il n'a pas trop mal. Il marche un jour en allant faire ses courses. Il a devant lui, dans le supermarché, un caddie. Et au bout d'un certain temps, il est obligé de s'arrêter parce que c'est comme s'il allait passer au travers de ses jambes. Une faiblesse, des fourmillements, des paresthésies qui concernent surtout une partie d'un membre à droite et puis après à gauche. Il a un peu mal dans le dos. Il faut dire qu'il a un petit ventre. Va voir son médecin qui lui prescrit des radios. Bon, on voit un peu d'arthrose. Ça traîne, ça dure. Il a toujours un peu mal. Et ses troubles sphinctériens sont presque honteux. Il se souvient de sa maman qui était incontinente dans son lit. Et il a peur de devenir comme elle. Il ne sait pas. Il se trouve que cette histoire dure des années et il se retrouve au bout de 2 ans en psychiatrie, tout simplement parce qu'il a de plus en plus mal. La radio ne montre toujours rien, le scanner rachidien ne montre toujours rien. Et un jour, il est totalement paralysé. Il se retrouve sur un brancard au bout de 10 heures passées aux urgences. L'IRM confirme une hémorragie au niveau de la queue de cheval en lien avec un ependymome de la queue de cheval. Ce patient, pendant un certain temps, pendant quelques mois, a été sous antalgique et ensuite sous psychotrope. On a bien pris en charge la douleur. C'est l'histoire tout aussi dramatique d'une mamie de 85 ans qui vit seule. Elle n'a plus toute sa tête. Elle tombe, elle se retrouve à l'hôpital, elle est perdue et depuis un certain temps, donc elle est constipée, elle fait une cystite Mais comme elle est démente, elle n'a pas la possibilité de s'exprimer. Elle crie. Elle s'agite. Et la nuit, très souvent, le personnel en restriction, pas assez nombreux, se retrouve obligé de l'attacher. Et on demande au médecin de garde si on ne peut pas la calmer un tout petit peu. Bien entendu, elle est soignée par un psychotrope. Elle est mise sous Hypnovel. Petite dose pour commencer. Le fameux 0,2 mg en sous-cutané. Le matin, on la retrouve morte dans son lit. Toutes ces petites histoires pour simplement dire quoi ? C'est que face à la douleur, il faut se poser des questions. Il faut chercher la cause. Il faut toujours se dire qu'est-ce qui est derrière ? Prendre en charge la douleur, c'est d'abord un métier. C'est prendre le temps, c'est interroger, c'est comprendre. Et ensuite, lancer, bien entendu, des examens paracliniques, l'imagerie essentiellement, pour arriver à trouver la cause et la soigner le plus tôt possible. La prise en charge de la douleur, ce n'est pas faire des grilles d'évaluation qualité pour faire plaisir. Voilà. Une fois que ça s'est dit, le ton est donné. Alors, gardez tout de même à l'esprit que systématiser les prises en charge de la douleur sous prétexte qu'on n'est plus sous l'influence de l'Église et qu'on est maintenant sous le couvert, sous les auspices de la laïcité, donc prendre en charge la douleur systématiquement, c'est pour aider qui ? Est-ce que c'est pour aider le patient, qui n'en a peut-être pas le souhait, le désir ? Est-ce que c'est pour aider le personnel à prendre en charge les autres patients qui, eux, ne perturbent pas le fonctionnement du service la nuit ? Dans tous les cas, lutter contre la douleur, c'est avoir une vision très vaste, très large du problème douleur et ne pas se limiter à des indicateurs qualité. Même si ces indicateurs qualité témoignent d'un bon fonctionnement de la structure de soi, il ne faut pas se limiter aux indicateurs qualité. Donc, comment nous allons aborder ce sujet en tant que médecin en formation médicale ? C'est tout simplement rappeler que depuis un certain temps, la Haute Autorité de Santé nous impose de faire très attention aux différentes formes de douleurs, surtout mettre en place les patients dans des parcours, des processus de suivi au long terme des douleurs chroniques et autre information, il faudra savoir tracer à travers un système de codage ou dans les lettres de liaison ou dans les réunions de synthèse la notion de prise en charge de la douleur. Ce qui est très important, bien sûr, c'est de ne pas passer à côté de l'étiologie et finalement de laisser le patient seul face à son problème. Nous allons aborder également quelques petites notions sur la facturation à travers la notion de gradation des soins et prise en charge de la douleur. Il y a possibilité de faire des hospitalisations pour les patients qui ont mal. Alors, comment ça se passe ? Nous allons aborder ça dans le chapitre « La gradation des soins et la douleur ».